Les cours du Collège de France, François-Marie Bréon, cher Avenir commun durable.
Bienvenue à tous dans le cadre de ce deuxième cours donné dans le cadre de la chaire Avenir commun durable. Donc, comme à chaque fois, je vais faire un cours d'une petite heure et qui sera suivi d'un séminaire qui sera donné par Cathy Clairbeau. Je vous encourage vivement à rester pour le séminaire parce que l'intervenante est vraiment extrêmement très forte scientifiquement et vraiment a des qualités pédagogiques que je considère exceptionnelles. Donc, je vous invite vraiment à rester après. Donc aujourd'hui, on va donc parler d'aérosols naturels et anthropiques. Donc pour rappel, hein, dans l'atmosphère de la Terre, on retrouve des gaz dont j'ai parlé la semaine dernière. On trouve des aérosols dont je vais parler aujourd'hui. Et on trouve des nuages dont je parlerai le 12 décembre. Juste pour rappel, hein, l'atmosphère, donc c'est quelque chose qui est assez fin, une centaine de kilomètres, alors que le rayon de la Terre fait 6400 kilomètres. On va pas tellement s'intéresser à ce qui se passe au-dessus de 40 km, mais aujourd'hui on va pas mal de discuter de ce qui se passe dans la troposphère. La troposphère, c'est la partie de l'atmosphère qui se situe entre 0 et entre 8 et 15 km suivant les latitudes, avec une température qui décroît avec l'altitude. Et on parlera un petit peu de ce qui se passe dans la stratosphère, où vous voyez que la température est relativement stable avec l'altitude, voire même avec une certaine décroissance. Et en fait, cette zone de l'atmosphère est chauffée par la couche d'ozone dont on vous a parlé pendant le séminaire de la semaine dernière. Alors, qu'est-ce que c'est que les aérosols ? Les aérosols, par définition, hein, ce sont les particules qui sont de soit solides, soit liquides, qui sont en suspension dans l'atmosphère, à l'exception des nuages, d'accord ? Parce que les nuages, finalement, les gouttes d'eau, ce sont des particules liquides en suspension dans l'atmosphère, mais c'est rangé ailleurs. Donc c'est tout ce qui est, voilà, toutes ces particules qui sont en suspension. Pour vous donner un peu de manière illustrée la dimension, vous avez ici un cheveu humain dont le diamètre de 50 à 70 microns. Un micron, c'est un millième de millimètre, hein, donc 70 microns, ça veut dire que ça fait un peu moins d'un dixième de millimètre. Et donc les aérosols qu'on va regarder, en fait, ils ont des dimensions quand même assez variables. Vous voyez, c'est trois ordres de grandeur. Les plus gros qui sont à peu près autour d'une dizaine de microns. Et puis les plus petits, au contraire, mille fois plus petits que ça. Alors, c'est quoi ? Donc des aérosols, comme j'ai dit, il y a des aérosols naturels et il y a des aérosols anthropiques. Les aérosols naturels, peut-être le truc le plus spectaculaire, ce sont les tempêtes de sable. Vous savez que régulièrement en France, on a du sable saharien qui arrive du Sahara et qui va se déposer sur les surfaces en France. Donc c'est très visible quand ça se dépose sur les voitures. C'est aussi très visible quand ça se dépose sur la neige. Ça peut d'ailleurs avoir un impact d'accélérer la fonte de la neige. Mais c'est spectaculaire, hein. D'ailleurs, ces poussières sahariennes, en fait, vont traverser, enfin, en fonction de la direction des vents, ils peuvent traverser complètement l'Atlantique et venir se déposer sur les îles Caraïbes, voire en Amazonie. Et on pense que, en fait, ça apporte du fer qui est aussi nécessaire au développement qui est utile au développement de la vie. Bref, donc ça, c'est un type d'aérosol naturel. Un autre type d'aérosol naturel qui est très important en masse, c'est tout ce qui se c'est les sels marins, c'est-à-dire que en gros, quand il y a des embruns, c'est des gouttes d'eau, elles contiennent du sel, éventuellement l'eau va s'évaporer et donc il va rester le sel dans l'atmosphère. Le sel, ben, c'est un aérosol. Quelque chose qui est très important aussi, c'est les volcans. Les volcans, lorsque vous avez des éruptions volcaniques, il y a des cendres qui sont émises à différentes altitudes, et en particulier pour les plus grosses éruptions, les grosses éruptions volcaniques, ces cendres peuvent aller jusqu'à la stratosphère. On y reviendra tout à l'heure, mais dans ces cas-là, ils vont avoir un impact climatique vraiment important. Et puis enfin, dernier exemple, hein, il y en a d'autres, c'est tout ce qui concerne les feux. Alors les feux, il y a des feux naturels, il y a des feux d'origine anthropique, mais là aussi, ces feux sont des sources d'aérosols qui peuvent aller plus ou moins haut, là aussi j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis des sources anthropique d'aérosol. On peut penser au transport, vous avez, et en particulier les moteurs diesel, vous avez certainement entendu parler des particules qui sont émises par les moteurs diesel. Ces particules, ce sont des aérosols. Donc ça c'est un exemple. L'industrie aussi est une source d'aérosols, en particulier du soufre qui va se déposer dans l'atmosphère. L'agriculture, donc d'une part simplement par soulèvement donc d'érosion du sol, peut-être une source d'aérosol, mais les engrais azotés aussi, il y en a une partie qui vont partir dans l'atmosphère et donc qui vont former des aérosols. Les feux, en particulier tout ce qui concerne le fait de brûler les cultures une fois que la récolte a été faite, c'est une activité qui a été très classique. Enfin, moi, quand j'étais gamin, je me souvenais très bien que les agriculteurs brûlaient les champs. Et puis, c'est maintenant interdit pour des questions de santé essentiellement, hein, justement pour limiter la production des aérosols dans l'atmosphère. Alors, c'est interdit en France, mais pas du tout partout dans le monde. Donc, c'est encore une grosse source d'aérosols. Le chauffage au bois, qui est parfois considéré comme très écologique, en fait, c'est aussi une grosse source d'aérosols. Et c'est pour ça que ce chauffage il est régulé dans pas mal de villes et aussi dans des vallées alpines. C'est souvent la principale source de pollution dans certaines vallées alpines, c'est justement les particules émises par le chauffage au bois. Et puis alors quelque chose qui nous concerne pas du tout en France, mais il y a pas mal de pays en voie de développement où en fait la cuisine ou le chauffage des bâtiments utilise du combustible de très mauvaise qualité, qui est une énorme source d'aérosols avec des impacts sur la santé vraiment, vraiment très important. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux aérosols ? Une des raisons pour lesquelles on s'intéresse aux aérosols, ce sont les impacts sur la santé. Les particules vont être, lorsqu'on respire, hein, les particules vont inhaler, et puis en fonction de leur taille, vous voyez ici, il y a plusieurs petits graphiques. Hein, ici, c'est les particules de 10 microns qui vont se déposer très vite, les particules de 2,5 microns qui vont aller plus loin dans les bronches, et puis celles qui font inférieures à 0,1 micron qui vont carrément rentrer dans le système sanguin. Tout ça, c'est vraiment un impact sur la santé très significatif. L'OMS estime que justement cette pollution en particules, c'est plusieurs millions de morts par an. Donc concentré beaucoup dans les pays en voie de développement du fait de ce que je vous ai montré il y a un instant. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de problème en Europe. Et même les estimations sont assez variables, mais il n'y a pas de doute que les aérosols, la pollution atmosphérique, conduit à plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année en Europe. Donc ça, c'est bien évidemment quelque chose de très important qui conduit justement aux régulations dont je parlais il y a un instant. Il y a aussi un impact sur la visibilité. Donc simplement pour le confort visuel, ça peut être important. On préfère finalement avoir des beaux paysages où on voit loin. Et donc c'est quand même moins bien c'est moins joli en tout cas, hein, quand il y a des aérosols qui gênent cette visibilité. Mais ça peut aller jusqu'à une gêne au transport, en particulier sous le vent. Des feux, ça peut aller jusqu'à conduire à des accidents quand la visibilité est fortement réduite. Un impact sur le trafic aérien, j'imagine que la plupart d'entre vous se souviennent de la période il y a une dizaine d'années, lorsqu'il y a eu un volcan en Islande qui a, avec une circulation atmosphérique qui était défavorable et qui emmenait les cendres de ce volcan sur l'Europe et ce qui a stoppé le trafic aérien pendant pas mal de temps. Alors ce sont des événements rares, mais enfin l'industrie aérienne a absolument besoin de surveiller justement les éruptions volcaniques, mais aussi ce qui vient des feux. Hein, les feux peuvent aussi conduire à des aérosols qui vont assez haut dans l'atmosphère. Et puis, bien évidemment, il y a un impact climatique, et c'est quand même essentiellement de ça qui m'intéresse et dont je vais parler aujourd'hui. Et vous allez voir que les aérosols, c'est vraiment quelque chose qui est très significatif sur le climat. Et en fait, si on ne prend pas en compte les aérosols, on ne peut pas comprendre l'évolution des températures au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Donc là aussi, j'y reviendrai. Alors pourquoi est-ce que les aérosols ont un impact climatique ? Il y a deux types. Il y a ce qu'on appelle l'impact climatique direct et l'impact climatique indirect. Alors, l'impact climatique indirect, il va faire intervenir des nuages. Donc, j'y reviens dans la planche suivante. Donc, là, l'impact climatique direct. D'une part, donc le premier impact, c'est que les aérosols, les petites particules, elles diffusent le rayonnement. C'est-à-dire que lorsque le rayonnement solaire arrive sur une zone où il y a des aérosols, et bien ces particules vont renvoyer la lumière un peu dans toutes les directions. Et donc, puisque c'est dans toutes les directions, il y a une partie des directions qui est vers l'espace. Et donc, ces aérosols vont limiter la quantité de rayonnement solaire qui arrive à la surface. Et par conséquent, ça va avoir un effet refroidissant. Donc ça, c'est le premier effet qui se voit très bien, qui est relativement facile à quantifier. D'autre part, quelque chose qui est... les aérosols, donc là, j'ai dit, ça diffuse la lumière. Les aérosols, certains aérosols, ils vont aussi absorber le rayonnement solaire. C'est-à-dire que le rayonnement solaire qui leur arrive dessus, il y en a une partie qui est diffusée dans toutes les directions, mais il y a aussi une partie qui est absorbée, et donc ils vont réchauffer la couche d'atmosphère à laquelle ils sont présents. En réchauffant la couche de l'atmosphère, on va modifier la stabilité, c'est-à-dire qu'on va changer la capacité de l'atmosphère à faire de la convection. Pour qu'il y ait convection, il faut que la température décroisse avec l'altitude. Donc si vous réchauffez en altitude, vous limitez cette convection. Et donc ça peut, ça limite ça, et donc ça va modifier aussi la température au sol en modifiant la convection. Et puis, dernier impact direct, les aérosols, il y a certains aérosols, là encore, qui absorbent la lumière du soleil. Lorsqu'ils se déposent sur la neige, ils vont réduire la capacité de la neige à réfléchir le rayonnement solaire. Et donc, là encore, ils vont, d'une part, accélérer la fonte de la neige, et puis, d'autre part, réchauffer un peu localement. Donc, ça conduit donc certains à refroidir le climat. L'aspect diffusion va plutôt refroidir le climat. L'aspect absorption va plutôt réchauffer le climat. L'effet net, il est clairement du côté du refroidissement. L'effet de refroidissement est plus important que l'effet de réchauffement. Puis alors, d'autre part, quelque chose qui est plus difficile à quantifier, c'est les impacts climatiques indirects qui, comme je le disais, font intervenir les nuages. En fait, alors déjà, quelque chose qui est semi-direct, c'est qu'en réchauffant l'atmosphère, la couche d'atmosphère, vous allez faire, les aérosols peuvent conduire, la présence d'aérosols peut conduire à l'évaporation des nuages ou la non-formation, simplement parce que l'air est plus chaud, donc elle peut contenir plus de vapeur d'eau avant qu'il y ait condensation de ces particules. Donc ça, c'est quelque chose qui s'observe. Et puis, surtout, les aérosols ils conduisent à ce que les nuages soient formés de gouttes plus petites et donc plus brillantes. Alors pourquoi ça ? C'est parce que pour qu'un nuage se forme, pour que des gouttes LED se forment, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un noyau de condensation, c'est-à-dire que donc la vapeur d'eau va aller se condenser sur quelque chose qui existe déjà. Donc s'il y a peu d'aérosols, s'il y a peu de noyaux de condensation dans l'atmosphère, la vapeur d'eau qui est disponible va se mettre sur les quelques particules qui sont disponibles. Et puis si au contraire, il y a beaucoup d'aérosols dans l'atmosphère, s'il y a une forte concentration, la vapeur d'eau disponible va se mettre sur l'ensemble de ces particules. Et donc ça va faire plus de gouttes et qui vont être plus nombreuses. Or, et si vous faites un petit calcul de transfert radiatif, qui est très, très facile à faire, vous voyez que lorsque vous prenez la même quantité d'eau et que vous la répartissez sur plus de gouttes qui, en conservant la même quantité d'eau dans les gouttes, ça conduit à un albédo, à une capacité de réfléchir du nuage qui est plus important. Et puis donc si vous mettez des aérosols, si vous mélangez en gros un aérosol avec le nuage, vous allez augmenter la brillance du nuage. Et puis d'autre part, évidemment, puisque vous avez modifié la taille des gouttes dans le nuage, vous allez modifier sa capacité à s'agréger les gouttes entre elles et par conséquent à précipiter ou pas. Donc ça va là aussi avoir un impact sur le cycle de vie des nuages, mais là ça commence à devenir quelque chose qui est compliqué à calculer, difficile à anticiper. Alors, ce truc-là là, que je vous ai expliqué un peu avec les mains, sachez que c'est vraiment... Il y a des observations satellites qui sont extrêmement démonstratives. Et donc, en fait, c'est les cas où il y a un bateau qui, avec un carburant qui est pas très propre, hein, souvent les carburants des bateaux contiennent beaucoup de soufre, et donc ça fait des particules soufrées dans l'atmosphère qui vont interagir avec la couche nuageuse, et donc ça fait faire l'effet que je vous ai raconté il y a deux minutes, là, ça va faire des plus petites gouttes, et donc des nuages plus brillants. Et donc voilà deux exemples hein, d'observation satellite dans une zone où il y a ces stratocumulus, hein, des nuages bas qui sont vraiment juste dans la couche limite, juste au-dessus de l'océan, et puis c'est une zone où il y a des bateaux qui passent, et bien vous voyez très bien les trajectoires des bateaux, hein, les bateaux, en gros là le bateau il est là, donc à proximité du bateau, enfin la zone qui est affectée est assez étroite, mais vous voyez que déjà c'est assez spectaculaire que le nuage est beaucoup plus brillant, et puis quand vous allez plus loin, là le bateau ici il est passé il y a quelques heures, et donc vous voyez que la zone affectée s'est étendue, et ça conduit vraiment à une zone qui est beaucoup plus réfléchissante. Donc vous avez la même chose un peu sur ce donc ici c'est au large de la Californie, et ici, bon, si qu'on a un peu l'habitude, on reconnaît, tiens, ça c'est les Andes, donc en fait c'est au large de l'Amérique du Sud, là c'est le Pacifique, et là il y a l'Amérique du Sud qui est ici, et donc là il y a une zone qui est assez favorable pour ce phénomène-là, avec souvent ces nuages bas. Bref, donc ces trucs-là, ça, c'est vraiment spectaculaire sur certaines images, mais il y a toutes les raisons de penser que ça arrive, que ça se produit un petit peu tout le temps, donc là on a un peu une démonstration de l'existence de ce phénomène. Alors, caractéristiques de ces aérosols. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé à dire que la taille est variable. Hein. J'ai donné un ordre de grandeur entre 1 centième et 10 microns. En fait, bien évidemment, les aérosols, ils n'ont pas une taille unique. Et donc, généralement, on parle de distribution en taille. Et donc, c'est ce qui est montré ici. Quel est, en gros, c'est le nombre de parties avec trois aérosols. Enfin, ici, on a deux aérosols différents. Donc, un aérosol qui est plutôt petit, hein, avec une distribution en taille, voilà, vous avez qui est comme ça. Et puis là, un aérosol qui est plus gros. Et c'est quelque chose qui est assez classique, en fait, d'avoir une distribution en taille qu'on appelle bimodale. Vous voyez, avec deux distributions des aérosols qui sont là autour de 3 microns, et puis des aérosols ici qui sont autour de 0,3 microns. D'autre part, donc ils ont aussi une composition chimique qui est très variable. Hein. Donc les carbones, ils viennent de la combustion incomplète. Hein. Donc ça vient tout ce qui est feu, aussi bien les feux de cheminée que les feux en extérieur. Les sulfates, c'est beaucoup dans les combustibles fossiles où il y a du soufre. Où il y a du soufre qui se retrouve dans l'atmosphère, donc ça fait des aérosols sulfatés. Les nitrates qui viennent beaucoup des engrais, le sodium qui vient en particulier des sels marins, et puis les minéraux, c'est en particulier tout ce qui est aérosol qui vient de les poussières qui viennent des déserts. Un truc qui est très important, je vous ai parlé tout à l'heure que certains aérosols avaient tendance à réchauffer le climat et puis d'autres aérosols avaient plutôt tendance à refroidir le climat. Ce qui va compter, c'est ce qu'on appelle l'albédo de simple diffusion. Alors, j'explique ça par quelques graphiques. Vous imaginez, vous avez le rayonnement solaire qui arrive sur une zone où il y a des aérosols. Il y a une partie de l'aérosol, il y a une partie du rayonnement qui va être absorbé, donc qui va être transformé sous forme de chaleur dans cet aérosol, donc dans la couche d'atmosphère, et puis il y en a une partie qui va être renvoyée dans toutes les directions, et à la fin en fait le rayonnement incident là il est réduit, hein, il y a quand même une partie du rayonnement qui passe à travers la couche d'aérosol sans être affecté, et donc ce qu'on va l'albédo de simple diffusion en fait c'est la partie du rayon, c'est parmi ce qui a été éteint, finalement, soit absorbé, soit diffusé, c'est la proportion qui est diffusée par rapport à la proportion diffusée plus absorbée. Et donc, l'albédo de simple diffusion, qui est proche de 1 pour les aérosols peu absorbants, et puis qui peut aller jusqu'à 0,8 pour les aérosols qui sont très absorbants. Donc, voilà un paramètre qui est essentiel pour l'impact climatique. Un autre paramètre, une caractéristique physique importante, c'est l'hygroscopicité, c'est-à-dire comment est-ce que l'aérosol va prendre de l'eau, va grossir en fait en présence d'humidité. Il y a des matières en fait qui sont hydrophobes, donc finalement sur laquelle l'eau va peu condenser, puis au contraire des matières qui sont plus hydrophiles. Et dans ces cas-là, vous avez en fonction de l'humidité, lorsque l'humidité de l'air augmente, et bien vous avez une forte croissance de la taille de ces aérosols, avec bien évidemment là aussi un impact climatique qui va varier. Et puis, la caractéristique physique, c'est la concentration. La concentration de l'air qu'on va quantifier soit en nombre, combien de particules par centimètre cube, et ou en masse, combien de microgrammes par mètre cube. C'est un peu les deux unités classiques. Et pour vous donner quand même un ordre de grandeur que même moi, ça me surprend toujours, c'est que de l'air, en fait, vraiment dans l'air, il y a énormément de particules en permanence, hein, et même lorsque vous avez 1000 particules par centimètre cube, hein, donc ça peut pas paraître beaucoup, et ben c'est encore considéré un air propre, c'est-à-dire que on considère qu'un air est pollué lorsqu'on a des concentrations qui sont 10 ou 100 fois plus importantes que ça. Alors comment est-ce qu'on mesure ces aérosols? Alors il y a tout un tas de choses, hein, que je vais essayer de balayer maintenant, toujours dans le cadre comment sait-on tout ça. Finalement, si on veut avoir une caractérisation complète de ce que je vous ai montré, hein, la distribution en taille, cet albédo de simple diffusion, la concentration de l'air, on fait des mesures in situ. Donc ça, voilà, c'est des instruments qui sont assez classiques en ville. En fait, Air, typiquement à Paris, Air Parif mesure en permanence à différents endroits dans la ville et puis dans les alentours la concentration de ces particules, et on déduit justement quelle est la qualité de l'air. Alors il y a pour la qualité de l'air, il y a les particules d'une part et puis les gaz d'autre part, mais la quantité d'aérosol, c'est un paramètre qui est essentiel pour définir la quantité de l'air. Donc il y a des instruments qui permettent de faire ça. Et puis si on veut une caractérisation complète, hein, justement quel est le type de particules, quelle est leur composition chimique, au-delà de la distribution en taille, il y a tout un tas d'appareils qui évidemment sont pas donnés, donc peuvent pas être déployés absolument partout, mais qui permettent de faire cette caractérisation. Et donc c'est des choses qui sont faites entre autres dans mon laboratoire pour étudier justement quelle est l'origine des particules, quelles sont les sources en fait de ces particules qu'on observe dans l'atmosphère. On peut faire aussi de la télédétection. Alors je parle ici de télédétection passive depuis le sol. Passive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de source de lumière, on se contente en fait de mesurer la lumière qui est émise par les particules, ou plus classiquement en fait on va mesurer la lumière qui vient du soleil et puis qui a traversé l'atmosphère. Et donc en gros, quand il y a beaucoup d'aérosols dans l'atmosphère, et ben il y a moins de lumière qui arrive sur le détecteur, et puis au contraire, quand il y a beaucoup d'aérosols, la lumière qui arrive sur le détecteur est plus importante. En fait, il y a une relation assez simple, hein. Ce que mesure notre détecteur, hein, c'est l'instrument que je vous montre ici, avec un tube qui permet de viser le soleil. Ce qui est mesuré, c'est en gros c'est la lumière en dehors de l'atmosphère qu'on a pu étalonner, et puis simplement avec une relation analytique très simple où il y a qui fait intervenir l'angle solaire ici, hein, l'angle entre la verticale et puis la direction du soleil, et puis ici tau qui est l'épaisseur optique, donc qui est finalement une quantification de la quantité d'aérosol dans l'atmosphère. Et donc finalement, si on mesure, si on a, on a une mesure qui est bien étalonnée, et bien à partir de I et puis la connaissance du zéro, ben c'est très facile de retrouver cette épaisseur optique. Donc voilà, c'est quelque chose qui est fait maintenant très, très classiquement. C'est un réseau en fait qui a débuté un peu quand j'ai débuté ma carrière, et qui est maintenant est très, très, très vaste. ouvertes. Hein, il y a plusieurs centaines de sites dans le monde où on fait ces mesures très, très simples. Alors pour cette information, en fait, l'instrument qui est là, c'est quelque chose qui est fabriqué par une petite boîte française. Cette petite boîte, l'instrument a été racheté en particulier par la NASA et a été déployé à peu près partout dans le monde. Et puis, c'est ce qui permet de faire simplement une caractérisation de la quantité d'aérosols dans l'atmosphère, mais assez peu, mais pas directement de sa caractérisation. Alors, la caractérisation de l'aérosol, elle se fait en partie en faisant cette mesure-là à différentes longueurs d'onde, différentes couleurs, si vous voulez, du spectre solaire. Et en fait, les gros aérosols vont intercepter la lumière à peu près de la même manière à toutes les longueurs d'onde, et au contraire, les petits aérosols vont intercepter la lumière préférentiellement dans les courtes longueurs d'onde dans les grandes longueurs d'onde et pas tellement dans les petites longueurs d'onde. Donc en faisant cette mesure à différentes longueurs d'onde, différentes couleurs, on a une première caractérisation de la taille de ces aérosols. Donc tout ça, c'est avec ces mesures directes. Et puis d'autre part, on fait quelque chose qui est un peu plus complexe, c'est-à-dire que l'instrument, là, il va viser en direction du soleil, et puis ensuite, il va se mettre à tourner en regardant toujours au même angle, mais il va scanner un petit peu l'intensité de la lumière du ciel, hein, le ciel qui va être plus ou moins bleu en fonction de la quantité d'aérosols dans l'atmosphère. Et donc, à partir de cette mesure, en fait, on va mesurer un peu dans quelle direction la lumière est diffusée. Et donc, avec des algorithmes qui sont adaptés, on peut en déduire justement une information plus grande sur la distribution en taille. Alors, on n'a toujours pas la chimie, on n'a toujours pas la caractérisation chimique de l'aérosol, mais au moins, on peut avoir une information sur sa distribution en taille et donc sur le type d'aérosol qu'on fait. Donc voilà, donc ça, c'est un réseau vraiment très complet qui permet d'avoir au moins sur les Terres une connaissance relativement bonne de la distribution des aérosols. Et puis, par contre, avec cette information, vous ne savez pas si votre aérosol il est proche du sol, s'il est à 3 km d'altitude, voire même s'il est dans l'atmosphère. Alors pour ça, on a recours à ce qu'on appelle la télédétection active, donc active dans le sens où on va émettre de la lumière et ce qu'on va mesurer, c'est la lumière qui va revenir vers le détecteur. Donc vous voyez une petite image ici, hein, justement ce fameux rayon vert, c'est de la lumière qui est émise par un laser. Et puis on va donc le laser il envoie des pulses de lumière. Alors il envoie plein de pulses par seconde, mais on va mesurer quand même le temps que la lumière prend pour faire un aller-retour. En fait, la lumière est diffusée par les aérosols, hein, comme tous les aérosols. Je vous ai expliqué tout à l'heure que ça diffusait de la lumière. Il y en a une partie qui revient vers le sol, une toute petite partie qui revient vers le sol, mais c'est suffisant quand même pour être mesuré. On mesure le temps que met la lumière à faire aller-retour, et ce temps, c'est très facile de le convertir en distance, et donc ça permet de voir à quelle altitude est la couche d'aérosol qu'on est en train de regarder. Et donc là, je vous montre un exemple typique. Donc ça, c'est en fonction du temps. Hein, vous voyez que ça commence ici à 9h du matin jusqu'à 11h, donc une période de 2h. Et donc on a, et ici, on a l'altitude. Donc on voit très bien que la couche d'aérosol qu'on est en train de regarder, elle est située entre 1,5 en gros et 2 km d'altitude. Et donc, en faisant un petit peu des rétro-trajectoires, en regardant un petit peu d'où vient cette masse d'air, on peut en déduire que là, on est en train de regarder une couche d'aérosol saharien qui vient justement du Sahara, qui a été transportée dans notre direction. Et donc, vous voyez aussi des caractéristiques, hein, on voit très bien des petites fluctuations de l'atmosphère, des zones où il y a des aérosols alors qu'il n'y en a pas au-dessus. Bref, il y a une information très riche sur où se trouve dans l'atmosphère cet aérosol, information qui n'est pas disponible avec la télédétection passive. Et puis, vous avez compris, hein, moi je suis toujours très intéressé par la télédétection spatiale, par l'observation par satellite. Et donc là aussi, en fait, donc ces poussières, ces aérosols, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, ils diffusent la lumière dans toutes les directions. Dans toutes les directions, il y en a une partie qui va vers le satellite. Et puis donc on peut mesurer justement ce qui revient vers le satellite. Et puis là encore, on va faire une mesure à différentes longueurs d'onde pour avoir une connaissance 7 pour essayer d'en déduire des informations sur la sur les aérosols, sur les caractérisations des aérosols. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Hein. En fait, déjà dans les années 90, en gros, on a commencé avec, par exemple, le satellite Meteosat. Vous savez, Meteosat, un satellite qui est localisé en permanence au-dessus de l'Atlantique, au-dessus de l'équateur à 0 degré de longitude. Donc il fait une observation de l'ensemble de la Terre visible toutes les demi-heures à l'époque. Maintenant, c'est plus rapide. Et puis, les océans sont assez sombres dans la longueur d'onde qui nous intéresse. Et par conséquent, c'est assez facile quand on voit de la lumière qui revient, c'est soit des nuages. Donc ça, on a des méthodes pour éliminer les nuages. Et puis, si ce n'est pas du nuage, on peut en déduire la quantité d'aérosols qui est au-dessus de l'Atlantique. Et donc voilà typiquement un truc qui date beaucoup. Hein. J'ai ressorti ça, mais maintenant c'est vraiment vieux. Maintenant on fait beaucoup mieux que ça. Mais déjà dans les années 90, voilà, on arrivait à faire ce genre de choses, ces images de. Et donc ce qu'on voyait essentiellement, on voyait vraiment très très bien les panaches qui venaient du Sahara et donc qui traversaient l'Atlantique en direction des Caraïbes, voire même de l'Amérique du Sud, soit parfois, en fonction de la circulation atmosphérique, qui partait au-dessus de la Méditerranée en direction de l'Europe. Et puis il y a aussi des périodes, c'est seulement certaines périodes de l'année, vous avez des feux, ici des feux liés à l'activité agricole, ici et là, avec une période qui n'est pas la même, et qui vont être déplacées vers les océans. Et donc on arrive à les voir très bien, vous voyez qu'en fonction de la saison, les zones où il y a des aérosols ne sont pas les mêmes. C'est lié justement d'une part à la circulation atmosphérique et puis d'autre part au fait que les feux liés à l'activité agricole ont une saisonnalité qui est très forte. Un peu plus tard, toujours dans les années 90, mais un peu plus tard, en fait, il y a eu un instrument qui a commencé à avoir plusieurs longueurs d'onde. On fait toujours ce même type de mesure. On regarde le rayonnement solaire qui est diffusé dans l'atmosphère, mais à plusieurs longueurs d'onde. Et donc, on peut en déduire un petit peu ce type d'image où là, il n'y a pas seulement finalement une première idée de caractérisation de la quantité d'aérosols, mais on va pouvoir dire, c'est plutôt des gros aérosols ou c'est plutôt des petits aérosols. Vous voyez ici, sur cette représentation graphique, on est plutôt dans les verts quand c'est des gros aérosols et plutôt dans les rouges si c'est des petits aérosols. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Typiquement, il y a toutes les zones qui sont en rouge. C'est les zones où c'est surtout soit de la pollution, soit des aérosols qui sont issus de feu, donc qui sont petits. Et puis, au contraire, là, des gros sur tous les océans ouverts, on a pas mal des aérosols marins, du sel, et puis les aérosols sahariens qui viennent du Sahara, là, qui traversent l'Atlantique, donc plutôt des gros aérosols. Donc aérosols de pollution plutôt dans les classes petites, et puis les naturels, que soit les aérosols marins, soit les aérosols de désert, qui sont plutôt des grosses particules. Et puis un peu plus tard, il y a eu tout un tas de missions satellites dédiées, vraiment dédiées à l'observation des aérosols. Et en particulier, cette mission-là sur laquelle j'ai été très, très impliqué au cours de ma carrière, où en fait, il y a un instrument qui fait des observations multidirectionnelles, je vais y revenir dans un instant, c'est-à-dire que la même cible au sol était observée suivant plusieurs directions. Et donc, ça nous permettait justement de remonter à cette observation. Je vais y revenir. Et puis, il y a eu tout un tas d'autres satellites qui ont été lancés, entre autres pour observer les aérosols. Avec ça, tout ça, ce sont des missions passives. Hein, donc là aussi, ils se contentent d'utiliser la lumière qui est émise, qui arrive en provenance du Soleil et puis qui est réfléchie dans l'atmosphère. Et puis, il y a eu aussi des missions actives, toujours avec ce fameux rayon vert là qui est émis par le satellite. Et puis, le satellite mesure la quantité de lumière qui revient, donc en fonction du temps, ce qui permet d'avoir cette distribution. Je vais y revenir. Donc ça, c'est juste... Là, je vous montre un petit film, si ça veut bien marcher. Ah, zut. Vous n'aurez pas le film, tant pis, ça ne marche pas. Attendez, je vais voir si ça peut me faire à la main. Voilà, ça marche. Voilà un peu ces mesures. Donc ça, c'est l'observation avec mon fameux le satellite sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans ma carrière, qui fait ces fameuses observations multidirectionnelles. Je pense que vous avez vu passer l'Afrique, l'Europe et l'Islande. Ça recommence. Vous voyez l'Afrique ici. L'Afrique qui arrive là. Là, ça, c'est le Sahara. Là, vous voyez l'Espagne, la France ici, l'Angleterre sous les nuages, l'Islande qui arrive là. Et donc, vous voyez que typiquement l'Islande, je l'ai observé plusieurs fois, et donc suivant plusieurs directions d'observation. Et donc, c'est ce que je. Et d'autre part, ce satellite, il permettait de faire des mesures en polarisation. Alors, je ne sais pas vos connaissances en polarisation, mais en gros, la lumière, c'est un champ électromagnétique. Et un champ électromagnétique, ça a une certaine direction. Hein, le vecteur électrique ou le vecteur magnétique ont certaines directions. Et en fait, notre œil n'est pas sensible à cette direction du champ électrique, mais un instrument peut le faire. Et donc, en mesurant la direction de ce champ électrique sur le champ magnétique, on peut retrouver des informations supplémentaires. Et donc, typiquement, là, je vous montre, c'est un tout petit peu complexe, mais j'ai deux planches pour vous montrer le genre de choses qu'on mesurait avec l'instrument Polder. Alors, deux images. Donc, cette première image, vous voyez, vous reconnaissez l'Inde ici. Et donc, je regarde un petit peu une image qui couvre le nord de l'Inde. Vous avez l'Himalaya qui est ici, et puis la vallée du Gange qui est là. Donc c'est ça. Donc là c'est l'Himalaya qui est là, le Tibet qui est là, et ça c'est toute la vallée du Gange. Donc ça c'est une image qui est relativement classique. C'est, en gros, c'est un peu ce qu'on peut voir à l'œil. Alors pas exactement à l'œil, parce que c'est des canaux dans l'infrarouge proche à laquelle notre œil n'est pas sensible, mais en gros c'est la lumière, c'est vraiment la lumière qui est réfléchie par les surfaces et puis par l'atmosphère. Et là, en fait, vous avez la même chose, mais cette fois on regarde la réflectance polarisée. Quelle est la quantité de lumière polarisée qui arrive de la surface, de la surface et de l'atmosphère. Et en fait, vous voyez peut-être que là, là où on voyait essentiellement la surface, là on voit essentiellement l'atmosphère parce que la lumière polarisée, elle est émise essentiellement par l'atmosphère. La réflectance de la surface est très peu polarisée. Bon, je suis conscient que c'est un tout petit peu complexe, mais donc sachez que avec cette information polarisée, en fait, on peut mieux distinguer quelle est la quantité de lumière qui vient de la surface, quelle est la quantité de lumière qui vient de l'atmosphère. Et donc, ça nous donne un moyen, justement, d'observer plus facilement ces aérosols. Un deuxième exemple. Alors cette fois, vous voyez, on est sur vous reconnaissez l'Afrique là, donc on est à cheval sur le golfe de Guinée et puis le Sahel qui est là. Et puis là, c'est une zone. C'est un moment où justement ça brûle pas mal. Il y a beaucoup de feu à la surface dans cette zone-là, donc beaucoup d'aérosols dans l'atmosphère. Qui, lorsqu'on regarde l'atmosphère en lumière totale, on a quand même du mal à les voir. Hein. La mesure, elle est vraiment dominée par ce qui vient de la surface. Donc, en fait, l'image, elle est en rouge parce que ça utilise là aussi des canaux qui sont en dehors du champ de. En dehors du spectre visible, et la végétation en fait réfléchit beaucoup la lumière dans l'infrarouge en dehors de ce spectre visible. Et vous voyez que donc là c'est la même chose, cette fois c'est en lumière polarisée, et donc vous voyez qu'on voit pratiquement plus le contraste entre la terre et la mer, et donc on va pouvoir plus facilement en déduire donc quelle est la part de lumière qui vient de l'atmosphère, et donc caractériser les aérosols aussi bien sur terre que sur mer. Et donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on arrivait à faire à l'époque. Donc cette fois uniquement sur les océans, mais on fait un peu le même genre de choses sur terre. On en déduit la charge totale en aérosol. Vous voyez, donc là c'est pour un mois donné, hein, et vous voyez donc c'est dominé par d'une part ce qui vient du Sahara, ici ce qui vient des feux, et puis on voit aussi un petit peu la part de pollution, hein, autour des États-Unis et puis un petit peu autour de l'Europe et puis surtout aussi autour de la Chine. Et puis surtout, en fait, on est capable d'en déduire un petit peu la taille des particules, ce qui nous permet de séparer tout ce qui est petits aérosols de tout ce qui est gros aérosols. Et donc, vous voyez bien ici, en gros, les gros aérosols qui viennent surtout du Sahara, et puis les plutôt petits aérosols qui sont liés d'une part à la pollution, et puis d'autre part à ces feux qui sont, là aussi, ça dépend de l'année, mais qui viennent du continent. Et puis donc, quelques exemples en télédétection active. Je vous ai mentionné hein, ce LIDAR qui nous permet de faire un peu une tomographie de l'atmosphère. Alors uniquement sous la trace, hein, le LIDAR, le laser, il tire uniquement sous le satellite, et puis le satellite il avance, donc on a une vision en deux dimensions de l'atmosphère, hein, une dimension qui est le long de la trace du satellite, et puis une dimension qui est sur la verticale. Et donc voilà par exemple, on a une zone, ça c'est le sud du continent africain, une zone où il y a beaucoup d'incendies, de feux, et puis la trace du satellite qui est là, et donc ça permet de voir, bah, tiens, la couche d'aérosol qu'on voit très bien ici, ça nous permet de voir que la couche d'aérosol elle est entre la surface et à peu près 4 km d'altitude, et puis là bon ça on voit des nuages qui sont ici, donc ça nous permet, voilà, ces instruments nous permettent d'avoir une caractérisation des aérosols sur la verticale. Bon, là, j'avance un peu simplement pour vous montrer. Ben, en fait, des feux, il y en a un peu partout sur Terre. Ça dépend de la période. Hein. Ici, on regarde de juillet à août avec beaucoup d'incendies sur ces zones-là, mais aussi, vous voyez, aux États-Unis, au Canada, et puis en Europe de l'Est. Et donc, on peut s'intéresser à ces feux. Une grande question, c'est les aérosols. En fait, ben, est-ce que ils restent dans le premier kilomètre, est-ce qu'ils sont transportés un peu plus haut en altitude parce que le feu il a fourni de l'énergie pour soulever la masse d'air, voire dans quelques très rares cas, lorsqu'il y a vraiment des incendies qui sont extrêmement intenses, le panache en fait peut s'élever extrêmement haut et aller jusque dans la stratosphère. Et donc c'est ça qui est encore un exemple. Là on a une image satellite qui nous a permis de détecter la position des feux. Ce sont les points rouges. Et puis j'ai passé pas mal de temps à chercher ce type d'image. On a eu de la chance, là, le satellite, il est passé juste au bon moment, pile sous le vent de ces feux, et donc ça nous permet de voir le panache d'aérosol qui est là, et donc là, il n'est pas monté si haut que ça, vous voyez qu'il est à quelques kilomètres d'altitude. Donc une fois qu'on a, à la main, on peut faire des choses comme ça, et puis après, on peut faire des traitements un petit peu automatiques de ces observations spatiales, et puis voilà, j'ai regardé un petit peu à quelle altitude étaient transportés les aérosols dans différentes régions du monde. Donc à nouveau, c'est l'altitude de transport dépend d'une part de l'intensité du feu et puis d'autre part de la stabilité de l'atmosphère. Si l'atmosphère est très stable, c'est-à-dire que si le profil de température varie peu avec l'altitude, et ben l'air est stable et donc l'aérosol va rester dans les basses couches. Et si au contraire il y a une forte diminution de la température avec l'altitude, ça va pouvoir monter plus haut. Donc voilà ce genre de choses qui nous permet vraiment de caractériser la distribution des aérosols, non seulement dans l'espace, mais aussi sur la verticale. Alors, une caractéristique, pour maintenant, une fois qu'on a vu où est-ce qu'il y avait des aérosols, où est-ce qu'il y avait des sources d'aérosols, une caractéristique qui est très importante de ces aérosols dans l'atmosphère, c'est le temps de résidence. Est-ce que, pour qu'ils aient un impact climatique, il faut que les aérosols y restent longtemps? Et donc, en fait, les aérosols, ils sont élimités de l'atmosphère, d'une part simplement parce qu'il y a la gravité, hein, donc ils sont lourds, donc ils tombent dans l'atmosphère, plus ou moins vite, et donc ils font se déposer au sol, c'est ce qu'on appelle la précipitation sèche. Quoi. Donc ça, c'est la sédimentation sèche. Alors ça, c'est significatif pour les grosses particules. Les grosses particules, effectivement, leur poids est important, et donc elles vont retomber au sol. Par contre, c'est absolument pas efficace pour les particules plutôt dans le range des petites. Et donc là, ce qui va être efficace, c'est l'interaction avec les précipitations. En gros, quand la précipitation va entraîner ces particules, et donc elles vont se déposer au sol à l'intérieur de la goutte d'eau. Et donc, ce processus-là, qui est quand même, pour les petits aérosols, qui est vraiment le procédé le plus efficace, ça ne peut marcher que si les aérosols sont assez bas dans l'atmosphère, c'est-à-dire s'ils sont en dessous des nuages qui vont précipiter. Si, et c'est pour ça que la hauteur d'injection des aérosols est très importante, parce que lorsque les aérosols sont injectés au-dessus de la météorologie, si d'une certaine manière, eh ben, ils vont rester beaucoup plus longtemps et par conséquent, ils vont avoir un impact climatique qui est important. Donc typiquement, le temps de résidence moyen, il est de 7 à 10 jours dans la troposphère. Hein, vous souvenez, la troposphère, c'est la couche d'atmosphère qui est entre 0 et 10 km. Maintenant, c'est très très différent pour les aérosols qui sont injectés dans la stratosphère. Alors, les aérosols qui vont dans la stratosphère, c'est essentiellement lié aux éruptions volcaniques. Et c'est aussi un petit peu, dans de rares cas, mais il y a quand même des cas qui sont documentés, dans les plus gros incendies, lorsqu'il y a des feux de forêt extrêmement intenses, il peut y avoir suffisamment d'énergie qui est donnée au panache pour qu'il monte jusque dans la stratosphère. Donc si on regarde un peu la quantité d'aérosols dans la stratosphère, là vous avez un graphique qui commence en 1980 et qui termine en 2020. Vous voyez que c'est quand même assez variable. Hein. Attention qu'ici c'est une échelle logarithmique. Donc ici on a pris un facteur 10, hein, on a pris un facteur 10 sur la quantité d'aérosols. C'est toujours lié à des éruptions volcaniques, avec la plus grosse, donc l'éruption du Pinatubo en 1992. Il n'y a pas eu de grosses éruptions depuis, il y a eu quelques petites éruptions, mais vraiment rien de comparable à ce qu'on a eu avec le Pinatubo. Et puis avant ça, il y avait le El Chinchón aussi, en 1984, sauf erreur, le Ruiz, voilà. Et donc, en fait, on peut regarder, du coup, ça nous informe, en particulier, en fait, l'éruption du Pinatubo nous a beaucoup appris sur la dynamique de ces aérosols dans l'astrosphère. Ça a été très très utilisé. Il y avait déjà des instruments spatiaux pour faire ça. Et donc, si on fait un petit peu un zoom là-dessus, à quelle vitesse en fait ça a décru, hein, et ben on retrouve que en gros il y a un temps de résidence qui est de l'ordre de 26 mois, donc un peu plus, enfin de l'ordre de grandeur, c'est 2 ans. En 2 ans, il y en a les deux tiers qui ont disparu. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Les aérosols dans l'atmosphère, ils vont rester 7 à 10 jours. Les aérosols dans la stratosphère, ils vont rester pratiquement 2 ans. Vous allez voir dans un instant pourquoi c'est important. Alors maintenant, en fait, vous avez vu, on a des observations in situ, on a des observations de télédétection au sol, on a des observations de télédétection spatiale. Et ben aujourd'hui, il y a des services opérationnels en fait, un petit peu comme la météorologie, hein, qui assimile l'ensemble de ces observations. Donc on voit, on a des informations sur la présence des aérosols, et puis on connaît la dynamique de l'atmosphère, et donc on peut prévoir comment les aérosols vont se déplacer dans l'espace, comment éventuellement ils vont être éliminés par les nuages, et donc ça permet de faire de la météorologie en fait des aérosols. Et donc voilà, ben là c'est juste une image donc qui a été fournie par ce service opérationnel de l'Union européenne qui s'appelle CAMS, et donc qui fait justement ces prévisions d'aérosols. Et là c'était un cas où il y avait des incendies au Portugal, et donc ça permettait de prévoir quelle était la trajectoire des aérosols qui étaient émis par ces incendies. Mais donc voilà, sachez que aujourd'hui, on a une caractérisation complète, tridimensionnelle des aérosols en permanence, grâce au service d'assimilation. En fait, on va assimiler les observations dans un modèle de transport atmosphérique. Et donc ça nous permet, là pour le coup, on combine un petit peu notre connaissance a priori sur le type d'aérosols qui sont émis, sur leur distribution. Et donc on peut en déduire finalement ces distributions globales des différents types d'aérosols. Alors ça, c'est des moyenne annuelle, mais en fait, ce genre de choses est fait en quotidien, voire heure par heure. Et donc, on connaît un petit peu là où se trouvent, par exemple, les aérosols qui sont plutôt liés à la pollution, hein, les sulfates, les aérosols qui sont plutôt liés aux feux, enfin aux incendies, enfin aux feux agricoles ou aux feux de forêt, et puis les poussières sahariennes ici, et puis la suie qui est là aussi liée au feu. Donc voilà, on fait ce genre de choses, on a une connaissance meilleure. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a encore pas mal d'incertitudes, parce que la caractérisation, l'observation des aérosols, ça marche dans certains cas. Dès qu'il y a des nuages, ça marche moins bien. Il y a quand même des incertitudes sur comment les aérosols et les nuages interagissent. Donc il y a plus d'incertitudes sur la présence d'aérosols que sur la présence de nuages ou sur les précipitations, par exemple. Alors, l'impact, quel est l'impact climatique ? Je vais en parler un peu plus, pas mal dans mon prochain cours, mais très, très rapidement. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre, donc ça, c'est une quantification, en fait, de l'impact humain sur le climat, avec, en gros, c'est quantifié en watts par mètre carré, avec, en gros, l'effet réchauffant des différents gaz à effet de serre. Et puis, vous voyez, ce qu'on a ici, en fait, c'est l'effet des aérosols. Alors, l'effet des aérosols, vous voyez qu'il est essentiellement refroidissant, en particulier, ça, c'est les sulfates, ça, c'est les carbones organiques. Et puis, il y a quand même aussi les carbones suies, qui, lui, a pour le coup un impact réchauffement, mais vous voyez que globalement, l'impact des aérosols, il est plutôt refroidissant, donc il va plutôt compenser en partie l'impact des gaz à effet de serre. J'y reviendrai un peu longuement dans mon prochain exposé. Et donc, ce qui est quand même important, peut-être, c'est que aujourd'hui, on a, pour des aspects de santé, on cherche à diminuer, il y a des politiques publiques qui cherchent à diminuer nos émissions d'aérosols, en particulier les aérosols sulfatés, mais aussi les aérosols carbonés. Hein, quand il y a ces mesures qui disent on n'a plus le droit d'avoir des foyers ouverts, on n'a pas le droit de se chauffer avec un foyer ouvert, ou on n'a plus le droit de brûler les résidus agricoles, c'est des choses qui sont faites dans un objectif de santé publique, avec des résultats. Hein, la qualité de l'air au point de vue quantité d'aérosols a fortement diminué dans les pays industrialisés. C'est pas du tout le cas ailleurs, mais dans les pays industrialisés, c'est le cas. Il y a eu des mesures récentes qui visent à diminuer la quantité de soufre qui est émis par les bateaux aussi. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure des images avec l'impact des bateaux. Bien, il faut bien voir que finalement, en ayant ces politiques publiques, on va réduire cet effet-là. Donc on va réduire l'effet refroidissant. Du coup, ça va avoir un impact réchauffant. Donc les politiques publiques, il faut être conscient du fait que les politiques publiques qui doivent être mises en place parce que l'impact sanitaire des aérosols, il est bien réel, ça va conduire à une aggravation du réchauffement. Alors, je voulais, juste pour terminer, je vais parler un tout petit peu de géo-ingénierie, parce que donc la géo-ingénierie, hein, c'est les mesures qui sont mises en place de manière volontaire, avec l'objectif de réduire le réchauffement climatique. Donc il y a tout un tas de mesures, et mon objectif, c'est pas de vous faire un panorama complet ici. Simplement, je vous dis que la mesure qui est la plus crédible, en fait, parmi celles qui sont proposées, c'est d'aller injecter des aérosols dans la stratosphère. Alors pourquoi est-ce qu'on les injecte dans la stratosphère ? Parce que vous avez vu, je vous ai expliqué que si on met des aérosols dans la stratosphère, ils vont rester longtemps, donc ils vont avoir un impact climatique réel. Si on met des aérosols dans la troposphère, le problème, c'est que ils vont y rester seulement quelques jours, et donc leur impact à terme, il va être plus faible. Donc finalement, on peut dire que c'est une solution basée sur la nature, hein, parce qu'on est juste en train de faire l'équivalent de ce que la nature nous fait lorsqu'elle fait ces grosses éruptions volcaniques. Et voilà, donc pourquoi pas faire ça ? Alors pourquoi pas faire ça ? Alors que, en fait, là, on a montré, voilà, justement, l'étude de ces éruptions volcaniques nous ont montré que effectivement, ça avait un impact climatique et que c'était un impact climatique refroidissant avec peu d'impact ou pas d'impact sur la santé. Et bien, en fait, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir les faire. Alors après, il faut faire du bénéfice-risque. Hein. C'est pour ça que, à mon avis, il faut étudier un peu dans le détail ces choses-là, justement, pour pouvoir vraiment argumenter sur quels sont les risques et quels sont les bénéfices. Donc, je vous liste les choses qu'il faut regarder de près et qui éventuellement vont nous dire non, c'est pas une bonne idée de faire ce genre de choses. La première chose à faire, c'est que donc les aérosols qui sont dans la stratosphère, donc je vous l'avais dit, ils vont réfléchir une partie du rayonnement solaire vers l'espace, et donc il va y avoir moins de rayonnement qui va arriver à la surface. Donc c'est pour ça que ça va refroidir. Maintenant, vous allez aussi changer la distribution spatiale de ce rayonnement solaire, et par conséquent, vous allez aussi modifier la circulation atmosphérique. La circulation atmosphérique, elle est basée sur justement les différences de rayonnement, de rayonnement qui est absorbé et émis. Et donc, si vous changez ça, vous allez avoir quand même du changement climatique. Donc, en fait, vous allez limiter le réchauffement climatique, mais vous n'allez pas forcément limiter le changement climatique. Vous allez avoir du changement climatique quand même. D'autre part, le rayonnement solaire, il est quand même nécessaire à la photosynthèse, et donc en limitant ce rayonnement solaire, vous allez modifier la photosynthèse. Alors ensuite, là aussi, c'est pas complètement clair quel va être l'impact net, parce que vous limitez le rayonnement direct. Par contre, vous allez augmenter le rayonnement qui vient de toutes les directions. Et il y a quand même des études qui montrent que ce rayonnement qui vient de toutes les directions, mais il est plutôt plus favorable à la végétation que le rayonnement direct qui est trop intense. Bref, donc il y a encore pas mal d'incertitudes dessus. Une autre raison pour dire que vraiment ce n'est pas une bonne idée de faire ça, c'est que les aérosols, même s'ils restent longtemps, ils finissent quand même par retomber, vous avez vu, de l'ordre de 2 ans. Et donc, en fait, il y a une obligation de renouveler les injections chaque année, voire en permanence, sans quoi, si un jour on décide, tiens, on arrête parce qu'on a changé d'avis, là, on va avoir tout de suite un réchauffement très, très rapide et important. Donc, ça veut dire que si on dit que c'est ça la solution, on impose aux générations futures à continuer à faire ça, sans quoi ils vont avoir le réchauffement climatique qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Pour moi, c'est ça le principal argument, c'est ce qu'on imposerait aux générations futures. Pour moi, c'est le principal argument pour ne pas le faire, mais à nouveau, il faut regarder ça dans le détail. D'autre part, ce problème-là ne résout pas l'acidification des océans, donc c'est pas complètement le climat, mais c'est l'autre problème lié à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, c'est le fait que les océans s'acidifient, et ça changera rien à ce niveau-là. Et puis surtout, il y a l'impact des aérosols sur la couche d'ozone, qui vous a été détaillé dans le séminaire de Sophie Godin-Beckmann la semaine dernière, donc augmenter la quantité d'aérosols dans l'atmosphère, ça va contribuer à détruire d'ozone, donc à limiter la quantité d'ozone dans la stratosphère. Et puis d'autre part, pour moi, un danger vraiment très important, c'est que si on dit on a une solution, il y a beaucoup de gens qui vont se dire puisqu'il y a une solution, c'est pas la peine de faire des efforts. Or, ces efforts de limiter nos émissions, ils sont absolument nécessaires. Voilà, c'est la fin. Juste quelques points à retenir. Enfin, vous en avez peut-être retenu d'autres. Donc, simplement, les aérosols, c'est des particules qui sont en suspension dans l'atmosphère, avec des sources très variables, qui sont aussi bien naturelles qu'anthropiques. Les aérosols, ils ont une durée de résidence dans l'atmosphère qui est d'une dizaine de jours dans la troposphère, mais 2 ans dans la stratosphère, donc très différent s'ils sont au-dessus de la météorologie ou en dessous. Je vous ai montré différents types d'observations. Donc les observations spatiales nous permettent d'avoir cette vision globale, mais ils ne donnent pas accès à toutes les caractérisations chimiques en particulier. Donc en fait, on a besoin de tout un tas d'interactions. Les aérosols ont un impact très important sur le climat. Aujourd'hui, ils refroidissent le climat de manière significative, typiquement l'ordre de grandeur. Alors, il y a pas mal d'incertitudes, en particulier sur tout ce qui concerne les interactions entre les aérosols et les nuages, mais typiquement l'ordre de grandeur, ça va être l'effet refroidissant des aérosols. Il est, l'ordre de grandeur, c'est un tiers de l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Donc s'il n'y avait pas ça, on aurait un réchauffement significativement plus important. Et finalement, ce que je vous ai raconté déjà aussi, les impacts sanitaires qui poussent à la mise en place de limitation de nos émissions. Il faut bien réaliser qu'en faisant ça, on sait que ça va contribuer à réchauffer le climat. Et je m'arrête là. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.